bound together at the table of brotherhood. I have a dream.
And Danny worked over the shoulder of Coleman.
Take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Challenger, only seconds after leaving the launch pad.
Quelle joie de vous saluer et de me retrouver ici à Nouvelle-Vie, Longueuil. Si je dis Nouvelle-Vie-Longueuil, c'est parce que maintenant, il y a Nouvelle-Vie-Longueuil, puis il y a Nouvelle-Vie-la-Prairie. Alors, je suis très content d'être ici et de vous saluer au nom de Nouvelle-Vie-la-Prairie. Toute l'église Nouvelle-Vie-la-Prairie est comme un derrière moi ce matin et vous salue chaleureusement. Et j'aimerais dire à quel point... Je suis honoré d'être ici ce matin, honoré parce que c'est vrai, quand on est arrivé ici avec mon épouse Nicole en 99, on n'avait pas mesuré à quel point est-ce que Dieu allait nous impacter, est-ce que Dieu allait faire une œuvre en nous à travers l'Église Nouvelle Vie. Et j'aimerais dire toute ma reconnaissance à l'Église Nouvelle Vie, à Pasteur Claude et toute l'équipe ici qui ont semé des choses dans nos vies, qu'on a emporté avec nous en Europe quand on est retourné en Suisse et qu'on a encore aujourd'hui enraciné, ancré en nous. Aujourd'hui, j'aimerais aussi remercier Pasteur Claude et l'Église Nouvelle Vie d'avoir cru en cette fusion avec l'Église Nouvelle Vie La Prairie, cru que Dieu avait encore des choses en réserve pour faire une œuvre encore à La Prairie et sur cette rive sud de Montréal. Amen. Amen. Dieu a encore des bonnes choses en réserve pour nous. Et alors que je préparais ce message ce matin, j'avais cette pensée dans la prière fortement. Que Dieu avait quelque chose en réserve tout spécialement pour des personnes en particulier au milieu de nous ce matin. Et je t'encourage ce matin véritablement à t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie là, ce matin, maintenant. Il est vivant et il est agissant encore aujourd'hui. Pendant cet été, alors qu'on prenait quelques jours de vacances dans la région de Toronto en famille, on est allé aux chutes du Niagara. T'es au chute du Niagara, et je me rappelle, alors qu'on était, j'étais à côté, j'étais appuyé sur la barrière, et juste en face des chutes, je voyais cette eau en abondance, ce fleuve, waouh, qui coulait, qui tombait là. Je me rappelle que je méditais, et ça me rappelait tous les versets de la parole de Dieu qui parle des eaux vives, qui parle de l'eau de Dieu, qui parle de ces eaux vives, cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Et dont son feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Alors que je priais pour préparer ce message, Pasteur Claude m'a demandé de prêcher ce matin, le 20 août, alors que je priais pour préparer ce message, j'avais cette pensée, cette image que j'ai prise, c'est pas pire, hein, c'est moi qui l'ai prise celle-là, que j'ai prise au bord de cette chute du Niagara, et j'avais cette pensée de Dieu pour nous ce matin. J'aimerais vous parler... ce matin, des eaux vives que Dieu en réserve pour nous. Des eaux vives que Dieu en réserve pour toi. Des eaux vives que Dieu en réserve pour ta vie personnelle. Saviez-vous que les Israéliens, le peuple d'Israël, avaient une fête spéciale à chaque année où ils passaient une semaine sous des tentes? Quels sont ceux qui ont fait du camping pendant ces vacances cette année? Les Québécois sont champions du monde du camping, apparemment. Donc, je vois des caravanes, semaine de la construction. D'ailleurs, j'ai toujours posé la question, semaine de la construction. Alors, quand on m'a dit, ici, la semaine de construction, c'est les vacances, je ne comprenais plus. Je me disais, mais construction de quoi? Les Québécois prennent des vacances pour construire leur maison, quelque chose comme ça? Ou semaine de la construction, on est vacances, OK, ça marche. Donc, semaine de la construction, on fait du camping. Beaucoup de Québécois partent avec leurs roulottes et puis ils vont faire du camping. Ça n'a pas été inventé par les Québécois. Ça n'a pas été inventé par les Québécois. Le peuple d'Israël, déjà bien avant les Québécois, faisait du camping. Là, ils étaient sous des tentes. Et cette fête, il y avait une fête une fois par année, une fête où le peuple d'Israël se réunissait pendant une semaine à Jérusalem. Et cette fête en hébreu s'appelle Soukot. C'est littéralement, ça veut dire cabane, tente ou hutte. Et durant cette fête, juste après l'été, le peuple d'Israël se réunissait pour après les récoltes, pour se réjouir de ce que Dieu avait fait pousser des récoltes. Ils avaient pu moissonner des choses pour se nourrir. Mais Dieu leur avait demandé aussi de célébrer cette fête pour leur rappeler leur délivrance de l'esclavage, de leur ancienne vie en Égypte. Leur ancienne vie en Égypte et le pèlerinage au désert qui avait suivi. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Et le fait de passer cette semaine de fête sous des tentes, ça leur rappelait aussi qu'il y avait autre chose que cette vie physique, cette vie matérielle, cette vie matérialiste, cette vie de consommation dans ce monde. Ça leur rappelait tout ça. Et en vivant à nouveau pendant une semaine sous des tentes, avec moins de confort que dans leur maison en dur, ils se rappelaient que leur espérance était en Dieu. Leur espérance était en Dieu et non dans les choses de ce monde. Leur confiance, ils se rappelaient pendant cette semaine qu'elle avait besoin d'être placée en Dieu avant tout. Avant tout. Et aujourd'hui encore, en 2017, on a besoin, tout comme le peuple d'Israël avait besoin, on a besoin encore de se rappeler que notre espérance n'est pas de ce monde. Et moi, je suis venu vous parler de ça ce matin. Notre espérance, elle n'est pas de ce monde. Et cette parole de Jésus dans Matthieu 6, 19 dira ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Non. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'aimerais nous poser cette question. J'aimerais poser la question à chacun d'entre nous ce matin. Alors qu'on vit dans un monde occidental, dans notre monde occidental, où la recherche de l'aisance matérielle est la norme. J'aimerais qu'on se pose la question ce matin. Où se trouve notre trésor? Où se trouve ton trésor? Il est où mon trésor? Dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Dans quoi est-ce que je mets mes pensées? Dans quoi je mets mon temps? Où est mon trésor? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les événements qu'on a vus passer à travers le monde cette semaine, les attentats au Burkina Faso, terribles, terribles, avec des dizaines de morts et de blessés. Les attentats en Espagne, Barcelone, cette voiture bélier qui a foncé dans cette foule et qui a tué des dizaines de personnes et des centaines de blessés. Des situations catastrophiques. Ces attentats en Finlande, quelqu'un avec un poignard qui se met à poignarder. En Sibérie, en Russie, là il y a hier, hein, quelqu'un qui se met à poignarder comme ça. Waouh ! Je ne sais pas vous, mais ça brasse dans le monde. Ça brasse dans le monde. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Et ici, au Canada, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces immigrations, cette immigration qui passent la frontière, ces gens désespérés, ces gens qui, pour beaucoup, avaient déjà vécu en 2010 un séisme dans leur pays, en Haïti, et qui se retrouvent réfugiés aux États-Unis, puis qui finalement fuient à nouveau, et se retrouvent dans des tentes. L'armée canadienne a mis des tentes à la douane, à une demi-heure d'ici, là, a bâti des tentes pour que ces gens-là se retrouvent dessus. Laissez-moi vous dire, parlez avec ces gens-là. Puis eux, ils savent ce que c'est que de vivre sans le superflu. Puis de se retrouver à fuir sur les routes, sur les chemins, passer les frontières, puis de se retrouver sans rien du tout sous une tente. Waouh ! L'instabilité de ce monde. L'insécurité dans le monde, nous démontre que nous avons besoin, mes amis, nous avons besoin de placer notre confiance ailleurs que dans les biens de ce monde. Ailleurs que dans les biens de ce monde. Aujourd'hui, rien n'est acquis. N'importe où dans le monde, rien n'est acquis aujourd'hui. Parlez avec ces gens qui marchaient à Barcelone. Jamais ils auraient pensé que leur vie allait basculer comme ça, alors qu'ils étaient en train de passer des vacances sympas dans un pays sympa. Dans quoi est-ce que je mets ma confiance ? Dans quoi est-ce que tu mets ta confiance ? Dans quoi est-ce que je mets mes priorités ? Dans quoi est-ce que j'investis mon temps libre ? Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Non, parce que je ne suis pas là juste pour vous raconter que le monde va mal, tout ça, là. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Tout ce que tu investis dans le royaume de Dieu n'est pas atteint par la rouille. Tout ce que tu investis dans le royaume de Dieu n'est pas atteint par la rouille. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, il existe un endroit où ce que tu investis, où ce que tu engranges n'est pas atteint par la rouille, ne peut absolument pas être volé, ne peut pas être dérobé, ne peut pas être percé, ne peut pas être détruit, absolument pas. Pas besoin, comme au Québec ici, pas besoin d'un traitement spécial pour ton auto, tu sais, un traitement spécial avant l'hiver, là, partout, là, pour qu'elle soit protégée pour la rouille, là, parce qu'ici, au Québec, le sel, etc. Pas besoin! Pas besoin. Le traitement a été fait une fois pour toutes à la croix. Alléluia. Yes! Le traitement a été fait une fois pour toutes à la croix. Alléluia. C'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons chacun et chacune d'entre nous ici ce matin. De pouvoir saisir ce message, pouvoir nous l'approprier et voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Où se trouve ton trésor ? Où se trouve ton trésor ? C'est ce que le peuple d'Israël se demandait, entre autres, pendant cette fête de Soukhot. Regarde avec moi le texte central de ce message dans Jean chapitre 7, verset 37 et suivant. Ça se passe pendant cette fête de Soukhot. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais objectaient certains « Le Christ pourrait-il venir de la Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu ? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Ce récit se passe durant cette fameuse fête de Soukhot en Israël, à Jérusalem. Et tous les Juifs étaient appelés à monter à Jérusalem, à converger vers Jérusalem, et pendant 7-8 jours pour fêter cette fête de Soukhot. C'était une des trois grandes fêtes annuelles juives. Et alors que Jésus monte à Jérusalem pour cette fête, son ministère avait déjà porté beaucoup de fruits. Des malades avaient déjà été guéris, des démoniaques avaient déjà été délivrés, des familles avaient été réconciliées, toutes sortes de choses merveilleuses avaient déjà pris place à travers son ministère. Et en même temps, alors qu'il est là, l'irritation des pharisiens grandissait et ils cherchaient tout le temps, constamment, un moyen de se saisir de lui, de l'arrêter et de le faire mourir. Et ce jour-là, comme d'autres, Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Il se lève. Il va donner une parole dans le temple. Et son discours ne laisse personne indifférent. Tout comme aujourd'hui encore. Le message de Jésus ne laisse personne indifférent. Parmi les pharisiens, bien sûr, qui s'irritaient toujours plus contre Jésus, mais dans la foule aussi, les gens sont bousculés par le message de Jésus. Les gens se posent des questions parce qu'il est en train de dire là. Et le texte nous dit qu'il y a trois catégories de personnes qui se dessinent parmi la foule qui est en train de l'écouter. Trois catégories de personnes. Premièrement, il y a ceux qui se posent la question d'où il vient. Vient d'où ? Ils croyaient qu'il venait de Galilée. Et en même temps, ils se rappelaient que les textes et que la prophétie disait que le Messie devait venir de Bethléem, d'être la descendance de David. Apparemment, ils n'étaient pas au courant que Jésus était bien né à Bethléem. Et qui venait pas de Galilée, qui restait souvent en Galilée, mais qui venait pas de Galilée, qui était bien la descendance de David. Deuxième catégorie de personnes qui sont là en train d'écouter Jésus. Ceux qui disent qu'il est un prophète. Ceux qui disent qu'il est un prophète. Littéralement, ils reconnaissent en lui quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui dit des oracles, un grand homme, un prophète comme Élie, comme Nathan, comme Jean-Baptiste. Mais dans cette description-là, il n'y a pas la notion du Messie. Il n'y a pas la notion de celui qui est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et puis, troisième catégorie, il y a ceux qui reconnaissent en lui le Christ. On l'a lu. Christos, celui qui est oint, le Messie, le Sauveur, celui qui est venu sauver le peuple. Que de perturbations face à Jésus! Quelle effervescence là au milieu de toute cette fête qui est là, les gens qui parlent. J'aimerais vous suggérer ce matin que ça n'a pas changé tant que ça aujourd'hui encore lorsqu'il est question de la personne de Jésus. Il y a encore premièrement ce matin, tout comme dans la foule qui se trouve là ce jour-là face à Jésus, il y a encore premièrement ce matin certains qui se posent la question de savoir si tout ça c'est bien réel. Les doutes sur Dieu sont bien présents dans leurs pensées à ces gens-là. Les réalités du monde alentour les déstabilisent, ce qu'on vient de décrire. Des guerres, des bruits de guerre, des gens qui s'entretuent, des gens qui foncent à la voie. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Déstabilisé. Le manque de connaissance, de proximité avec Jésus les fait douter. Tout comme ces Juifs qui, par manque de connaissance, par manque de proximité, s'ils avaient été près de Jésus, ils auraient su qu'ils venaient de Bethléem. Puis qu'il était de la descendance de David. Leur manque de proximité avec Jésus les fait douter. Alors on spécule, on doute, on observe avec scepticisme, puis on fait nos petits commentaires, puis on se forge notre petite façon de penser la philosophie de vie, notre petite philosophie de vie à nous-mêmes. Puis on prend un petit peu d'ici, puis on prend un petit peu de là, puis on prend un peu de ce qu'on nous a dit là, puis on prend un peu d'une religion ici, puis d'une autre chose là. Il y a comme un aveuglement parce que ce manque de proximité avec Jésus nous aveugle, aveugle, empêche de voir Jésus tel qu'il est. Peut-être que toi, ce matin, tu es venu ici avec des doutes. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te dis, à travers les blessures, les épreuves de la vie, à quoi bon ? Ça fait tellement mal. Est-ce que tout ça s'en vaut vraiment la peine ? Et puis, deuxième catégorie de personnes, comme dans cette foule face à Jésus, il y a aussi encore aujourd'hui certains chrétiens qui considèrent Jésus encore comme un prophète. Dans la vie du peuple d'Israël, le prophète apparaissait de temps en temps pour avertir le peuple, le roi. Il donnait son oracle et on le respectait pour cela, on le respectait en tant que tel. Mais au fond, sa vie à lui ne pouvait pas changer la vie du peuple. Et le peuple retournait à ses affaires. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre que les moments où ils ont été changés véritablement en profondeur ont été épisodiques pour retomber si souvent bien bas, juste après. Un peu comme nos vies parfois, un peu comme ta vie peut-être ce matin. Oh, j'ai tenté de me tenir, j'ai tenté de tenir le coup, j'ai tenté d'essayer d'avoir une vie chrétienne, de faire comme le pasteur dit, puis j'ai tenté, puis j'arrivais pas, puis je suis retombé de nouveau, puis encore. Le peuple d'Israël a vécu ça. Il y a eu Sodome et Gomorre. Il y a eu l'esclavage en Égypte, il y a eu les 40 ans dans le désert, il y a eu la royauté qui n'a pas apporté tellement de bonnes choses. Le prophète Samuel avait dit « Non, faites pas ça !» Demandez pas ce que les autres nations demandent, faites pas comme les autres nations, non. Notre Dieu, notre roi, c'est notre Dieu, c'est Dieu, c'est l'éternel. Ne faisons pas cette erreur-là. Et pourtant, ils l'ont fait. Et l'histoire du peuple d'Israël nous démontre qu'il n'y a pas eu beaucoup de rois qui véritablement ont amené les bonnes choses. Il y a eu un schisme d'ailleurs, le schisme. Israël, Juda. La déportation à Babylone, 70 ans en esclavage, parce que le peuple d'Israël n'avait pas voulu écouter les prophètes qui venaient avertir au nom de Dieu. Et tout cela alors qu'il y avait des prophètes en Israël qui parlaient au nom de Dieu. Mais ça venait de l'extérieur. Ça venait de l'extérieur et nous avons besoin d'un changement à l'intérieur de nous, une réforme de cœur. C'est là que ça se passe, le changement. C'est là que nous avons besoin d'un changement à l'intérieur de nos vies. C'est à l'intérieur de ta vie que tu as besoin d'un changement pour voir une différence, pour faire une différence véritable. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Et il est notre Seigneur. Et il désire être le Seigneur de nos vies. Il désire être le Seigneur de ta vie. Ça veut dire quoi, Seigneur de ma vie? Le Maître, mon Maître, celui qui dirige toute ma vie, chaque recoin, pas juste une partie puis une autre, je garde pour moi. Chaque recoin de ta vie, chaque bout de ta vie, chaque domaine de ta vie, tes pensées, il aimerait être ton Seigneur. Savez-vous quoi? Sa spécialité, c'est les opérations du cœur. J'aime ça. C'est un spécialiste des opérations à l'intérieur de nos vies. C'est un spécialiste des opérations à l'intérieur de ta vie. Et si ce matin, tu es venu puis il y a des choses qui ont été blessées, si ce matin, tu es venu puis il y a des choses qui ont été maganées à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire une chose, une parole d'espoir extraordinaire. Ce matin, Dieu est au milieu de nous et il est celui qui guérit encore. Il est celui qui opère encore dans les cœurs. Il est celui qui répare les vies encore aujourd'hui pour toi, pour ta situation, pour ton couple, pour ta famille, pour ton travail. Il est celui qui répare les vies. Alléluia. Nous avons besoin pour cela de comprendre, de saisir que notre considération change de Jésus prophète à Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur de ma vie au complet. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure, c'est ça que Jésus dira. Debout au milieu de cette foule, dans cette fête, au milieu du temple à Jérusalem, dans cette fête de Soukhot, c'est ça qu'il va dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et littéralement, suivez-moi bien, littéralement dans le grec, ça parle de souffrir de la soif. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un souffre de la soif, littéralement, de ressentir douloureusement un besoin. C'est ça que ça dit littéralement. Waouh ! Waouh ! Jésus est en train de dire à cette foule, s'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre douloureusement à l'intérieur, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a soif d'autre chose que cette souffrance permanente et ce combat permanent, je suis la solution. Je suis la solution. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et aujourd'hui encore, le 20 août 2017, ces paroles résonnent ici encore, à Nouvelle-Ville-Longueuil, ici au Québec et partout dans la francophonie, pour ceux qui nous écouteront plus tard. S'il y a quelque chose en toi ce matin, s'il y a quelque chose, s'il y en a parmi nous qui ressentent un douloureux besoin au-dedans de vous, une soif à l'intérieur de vous, toute particulière, une soif de quelque chose de plus, va vers Jésus ce matin. Approche-toi de Jésus ce matin et laisse-le te remplir de son eau vive à lui. C'est une eau qui fait du bien, c'est une eau guérissante, c'est une eau restaurante pour ta vie. Alléluia. Et alors, là où il y a eu de la peine et de la tristesse, il y aura une joie surnaturelle qu'il fera couler en toi. Là où il y a eu des blessures, des déceptions qui t'empêchent de pardonner, peut-être des abus dans ta vie, tu trouveras la force de pardonner avec un repos de l'âme qui va avec. Ça n'a pas de prix. Et il n'y a que Dieu qui peut donner ça, qui peut produire cette source-là dans ta vie. Là où il y a peut-être de la colère, de la haine, il y aura une paix, une douceur, un shalom de Dieu qui prendra place dans ta vie. Là, peut-être où il y a des doutes aujourd'hui, Dieu est capable de faire venir une paix, couler une paix et donner une conviction forte dans ton cœur, un enracinement. Là où peut-être il y a des combats intérieurs dans ta vie, il est capable de faire couler des forces renouvelées pour faire face à la tentation. Parce que tu ne considéreras plus Jésus comme un prophète, comme quelqu'un de bien qui dit des choses bien, mais comme celui que à qui tu donneras le droit de devenir le Seigneur de chaque recoin de ta vie pour te transformer, pour te corriger, pour te guérir, pour détordre peut-être ce qui était tordu dans ta vie et t'enraciner en lui. Beau programme. Beau programme merveilleux et qui change la vie, et qui change nos vies, et qui change ta vie, et qui est capable non seulement de changer ta vie, mais de rejaillir sur l'extérieur, autour de toi. On a besoin de passer de la considération que Jésus est vraiment un grand parmi les grands à Jésus mon Seigneur, à Jésus mon Messie, à Jésus mon tout, à Jésus mon essentiel. Le centre de ma vie, le centre de chaque recoin de ma vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette foule, rassemblée au temple pendant cette fête de Soukhot. C'est moi! Je suis le Messie, c'est moi, je suis le Messie. Et ces paroles résonnent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il y a quelques années en arrière, j'étais en Israël. Et si tu vas en Israël, dans certains déserts, en particulier le désert du Negev, si tu vas dans le désert du Negev, c'est très sec. Là, tu vas me dire, écoute, tu es venu de la Suisse pour nous dire qu'un désert, c'est sec. C'est sympa, merci beaucoup. Mais d'une aridité. Une aridité, des cailloux, de la rocaille, c'est aride. Mais savez-vous quoi? Sous la surface, pas loin sous la surface, il y a plein de petites graines. Il y a plein de petites graines qui attendent juste une chose. Juste une chose. Qui attendent juste un bon orage. Juste un peu de pluie qui tombe dessus. Et lorsque la pluie tombe dessus, dans le désert du Negev, de temps en temps, il y a un grand orage qui arrive. Et lorsque les orages arrivent, le désert se met à fleurir à nouveau. Le désert se met à fleurir à nouveau. Regardez ça, c'est le désert. Regardez juste la colline en arrière, là. C'est rocailleux, c'est aride, c'est le désert. Mais regardez juste là, c'est incroyable. On aimerait juste y mettre une belle vache suisse, puis juste bien manger ça, faire du bon lait, du bon fromage. Et c'est extraordinaire. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Si tu sens que ta vie est comme un désert ce matin, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose comme une sécheresse qui a pris place, peut-être pas forcément parce que tu as fait toutes sortes de péchés incroyables, peut-être que oui, mais peut-être simplement, des fois on vit des étapes de vie, des fois on vit des saisons de vie, et peut-être que tu es dans une étape de ta vie où tu passes par un désert, j'en suis passé aussi, et dans ces moments-là, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, on se demande Seigneur, tu es encore là, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est comme aride, c'est comme sec, c'est comme rocailleux, mais laissez-moi vous dire que Dieu a tout prévu sous la surface de nos vies, Dieu a prévu des graines. Et si tu laisses la source de Dieu couler sur ta vie, si tu laisses Dieu couler sur ta vie ce matin, tu vas voir des choses pousser, tu vas voir ta vie refleurir à nouveau. Alléluia! Tu vas voir ta vie fleurir à nouveau. Ton désert n'est pas une fatalité. Ton désert n'est pas une fatalité. Je prie ce matin de tout mon cœur. Et alors que je me préparais dans le jeûne et la prière cette semaine, j'ai prié ça pour plusieurs parmi nous ce matin. Pour plusieurs parmi nous ce matin, avec cette parole pour toi. Ton désert ce matin est terminé. Amen. Dieu a prévu de faire fleurir ton désert ce matin. Dieu a prévu de faire fleurir ton désert ce matin. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire prendre place dans la vie de plusieurs parmi nous. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que ce matin tu puisses t'ouvrir, peut-être que ça fait mal, peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a de l'amertume qui est là. Je prie de tout mon cœur ce matin, tu puisses t'ouvrir et aller à Dieu. Ce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que tu puisses aller à lui ce matin. Tu puisses aller à lui ce matin, Seigneur, regarde ma vie, regarde mon désert, Seigneur. Coule sur ma vie, Seigneur. Pleut sur moi, Seigneur, j'en ai tellement besoin. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans ton couple, dans ta famille, à ta job, à ton travail, peut-être. C'est dur, ça tiraille, puis il y a des situations difficiles, peut-être financières, et tu soupires après une action de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu veut pleuvoir sur toi ce matin. Dieu veut pleuvoir sur toi ce matin. Alléluia. Pendant les 7-8 jours que durait cette fête de Soukhot en Israël, il y avait au milieu de toutes sortes de cérémoniels, de cérémonies pendant la fête, il y avait une cérémonie rituelle quotidienne. Chaque jour, ça se passait. Pendant les 7-8 jours, chaque jour, il y avait cette cérémonie qui se passait où le peuple d'Israël, les Juifs, étaient rassemblés au temple et ils partaient en cortège derrière le sacrificateur. Ils partaient en cortège, ils descendaient jusqu'à la source de Guion qui était un peu plus bas. Ils descendaient en cortège tous ensemble et alors qu'ils descendaient au cortège, ils arrivaient à cette source et alors qu'ils arrivaient à cette source, le sacrificateur avait une grande cruche et alors qu'ils arrivaient vers la source, le sacrificateur plongeait cette cruche dans l'eau alors que le peuple était en train de chanter Ésaïe 12. Et on va lire ensemble et on va lire ensemble ce texte que le peuple chantait. Je vous épargnerai de chanter ce matin, peut-être Seb Korn composera quelque chose là-dessus à un moment donné une fois, mais imaginez-vous la situation. Ils sont là, ils ont fait un cortège chaque jour, ils descendent depuis le temple à Jérusalem jusqu'à cette source, ils suivent le sacrificateur plonge sa cruche dans l'eau, il la remplit dans cette source là et le peuple est en train de chanter autour: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là: louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ils sont en train de chanter ça, alors que le sacrificateur plonge sa cruche dans l'eau, et ils remontent tous ensemble en cortège à nouveau, ils remonte jusqu'au temple, et là, le sacrificateur répand cette eau, verse cette eau sur l'autel. Waouh ! Ce geste symbolique rappelait à tout le peuple comment Dieu avait fait jaillir l'eau du rocher pour les abreuver dans le désert avec Moïse, pendant que le peuple errait dans le désert. Qu'au milieu d'un désert, Dieu peut faire jaillir de l'eau d'un rocher. Alléluia ! Et alors, imaginez-vous quelques instants, alors à la fin de cette semaine de Soukhot, de fête, lorsque Jésus fait référence à cette eau vive qui jaillira lorsqu'il se lève, puis qui dit « Hey, l'eau vive, celui qui a soif, etc. » Lorsqu'il fait référence à ça, les Juifs qui l'entendent ont parfaitement conscience de ce à quoi il est en train de faire référence. Parce que tous les jours, ils descendent à cette source, avec le sacrificateur, ils y puisent et ils chantent « Venez puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et Jésus est là au milieu, et puis il se lève au milieu d'eux, puis il dit: regardez, c'est moi, je suis la source du salut, c'est moi, vous pouvez puiser à moi, vous pouvez venir vers moi, c'est moi votre Messie, c'est moi qui est venu vous sauver. Waouh, incroyable, laissez-moi être votre source dans chaque aspect de vos vies. Laissez-moi vous remplir pour faire jaillir de vos vies toutes sortes de belles choses que vous ne pouvez pas produire par vous-même, mais toutes sortes de belles choses qui viennent de moi, de Dieu, et que vous ne pouvez produire par vous-même, non. Laissez-moi faire jaillir cela dans vos vies. C'est ça que Jésus est en train de dire au peuple, et c'est ça qu'il nous dit ce matin encore. C'est ça qu'il dit en frappant à la porte de ton cœur ce matin. Alléluia. Il a encore les capacités de faire jaillir dans nos vies et de nos vies. Parce qu'il ne veut juste pas remplir ta cruche. Hein. Ce n'est pas juste ça son désir de remplir ta cruche, puis ça y est, c'est bon. Il veut la faire déborder. Il aimerait la faire déborder. Je prie ce matin qu'il fasse déborder ta coupe. Que Dieu fasse déborder ta coupe et que ça puisse couler, ça puisse rejaillir, puis que ça puisse couler sur les personnes qui sont autour de toi. Là où Dieu t'a placé, là où moi je ne peux pas aller, là où Pasteur Claude ne peut pas aller. Là où le staff Nouvelle Vie ne peut pas aller avec vous, là où Dieu vous a placé, avec votre voisinage, là, à votre travail, avec vos collègues de travail, dans votre famille, avec les membres de votre famille, Dieu est capable de faire jaillir, rejaillir de vos vies parce que vous aurez choisi de dire: chaque recoin de ma vie, Seigneur, chaque recoin de ma vie, je les confie, chaque recoin de ma vie, tu es, Le Christ, tu es le oint, tu es mon Messie, tu es mon Sauveur, tu diriges, je t'ai soumis chaque recoin de ma vie, Seigneur. Alors, ça me permettra, lorsque je me trouve dans des situations difficiles, ça me permettra de pouvoir me confier en toi. Lorsque quelqu'un me donne une parole difficile, lorsque quelqu'un viendra vers toi à ton travail, puis t'écrasera encore à nouveau. Pas dire qu'on doit se laisser tout faire, on est d'accord. Mais une capacité de Dieu de pas commencer à laisser l'amertume à nouveau revenir, puis la critique, puis la médisance, puis les jugements, etc. À ton travail avec tes collègues, etc. Parce qu'il y a tout à coup une parole qui t'aura offensé ou blessé, etc. Non, parce que j'ai soumis chaque domaine de ma vie. Parce que ces domaines-là aussi, je les ai soumis à Dieu. Alors, capacité de dire, c'est pas grave. C'est pas grave, Seigneur, béni. Capacité d'avoir une attitude différente. Capacité d'avoir des réactions différentes. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu a les capacités de changer tes comportements, de changer tes actions, de changer tes pensées, de changer tes attitudes pour faire toute la différence là où il t'a placé, parce qu'il aimerait, que tu sois une source, qu'il y ait une source qui jaillisse de toi puis qui rejaillisse autour. Là, parce qu'il t'a placé, là où il t'a placé, c'est pas pour rien qu'il t'a placé là où t'es. Il veut t'utiliser toi. On a besoin, chacun d'entre nous, de confier nos vies à Dieu, parce que c'est ça l'Église, c'est des pierres vivantes que nous sommes. Et on a besoin les uns des autres, et chaque pierre est importante. Et là où Dieu t'a placé, personne d'autre peut faire le travail à ta place, que Dieu s'attend de toi. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin, chacun d'entre nous ce matin, de dire, Seigneur, chaque domaine de ma vie, chaque recoin de ma vie, même là où ça fait mal, je t'ouvre, Seigneur, la porte, puis viens couler, viens restaurer, viens guérir, viens souffler dans mes voiles, Seigneur. Alléluia! 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 J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. J'aimerais parler à tous ceux et celles qui sont fatigués ce matin. À ceux qui sont lassés. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu a les ressources surnaturel pour te donner du repos. Les ressources surnaturelles pour toi ce matin. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras ce matin. N'abandonne pas. Il n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Non. Et à toi qui traverses une tempête ce matin, à toi qui traverses des épreuves, où tu as l'impression que tu es tellement pressé que tu te demandes comment tu vas tenir le coup. Il y a comme un douloureux besoin qui se fait sentir en toi. Et tu te demandes si tu auras la force de passer au travers. Jésus est celui qui se lève devant toi ce matin. Regardez bien. Tout comme il s'est levé dans cette foule, parce qu'il savait que les gens avaient besoin de lui, il avait besoin. Les gens étaient là, puis ils avaient soif. Il se lève devant toi ce matin. Jésus se lève devant toi et il te dit, je suis celui qui peut faire couler une source en toi. Je viens t'abreuver à moi ce matin. Si tu souffres de la soif, que ton besoin se fait douloureux, viens à Jésus ce matin, je t'en supplie. Il aimerait faire couler sa vie en toi. Repose-toi en lui ce matin. Ça se passe en 1942. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, fiancé à une jeune fille d'une vingtaine d'années, en France, dans la ville de Paris, sous l'occupation allemande, Deuxième Guerre mondiale. Et ce jeune homme travaille fort, il travaille dans une usine, puis il travaille fort, il part le matin très tôt, il fait encore nuit, il met son manteau, il rentre à l'usine, il travaille 10, 12, 15 heures par jour, il ressort de l'usine, il fait de nouveau nuit, et tous les jours c'est comme ça, il travaille vraiment dur, c'est la guerre, et un jour alors qu'il a fini sa journée de travail, il sort, il fait nuit dehors, il enfile son manteau, il sort de l'usine, il est fatigué, il est harassé par sa journée de travail, toutes ses journées de travail en arrière. après. Et il sort de l'usine, et il y a deux soldats allemands qui l'attendent à la sortie de l'usine, qui l'attrapent par le bras et qui l'amènent jusqu'à la gare de Paris. Il va se retrouver dans cette gare avec des centaines de personnes qui sont là, des trains avec des wagons à bestiaux qui sont là, les portes grandes ouvertes, et puis il pousse les gens dedans, et il va se retrouver au milieu d'un wagon, debout, impossible de bouger, impossible des fois même de respirer, des gens qui font des malaises, et le train, les portes métalliques se ferment, le train part, il se met à rouler, et il va rouler pendant toute la nuit. Toute la nuit, le train va rouler, il y a des gens qui font des malaises, il y a des gens qui ne se réveillent pas, et il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, qui sont en panique, et tout ça dans le train, et il y en a d'autres qui sont complètement silencieux, ils savent où ils s'en vont. Et le train roule la nuit, il va s'arrêter au matin, en plein milieu de l'Allemagne, il va passer la frontière allemande, il va se retrouver en plein milieu de l'Allemagne, et le matin, le train s'arrête, les portes métalliques du wagon s'ouvrent, et puis les soldats allemands font sortir les prisonniers à coups de crosse de fusil, et ce jeune homme-là va se retrouver les trois prochaines années de sa vie prisonnier dans ce camp. C'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire du papa de mon papa. Et je me rappelle que lorsque j'étais petit et qu'on allait visiter mes grands-parents, je me rappelle assis à la table, 8, 9, 10, 11, 10, 11 ans, je l'écoutais et il nous racontait pendant des heures ce qu'il avait vécu pendant ces trois années dans ce camp. Il nous racontait tout ce qui avait pris place et les horreurs qu'ils avaient vécues. Des choses innommables, des choses qu'ils ne pouvaient même pas parler devant nous et encore moins devant des enfants. Mais je me rappelle que je buvais ses paroles et j'écoutais ce qu'il racontait. Il racontait comment, alors que les prisonniers, dans ce genre de cadre-là, évidemment, se tiennent les coudes très fortement, ils deviennent très solidaires les uns des autres au milieu de l'horreur. Ils avaient perdu tellement de poids qu'ils avaient juste la peau sur les os. Et les maltraitances de ces prisonniers qui étaient maltraités. Tout à coup, il voyait un ami à lui qui partait un matin entre deux soldats, puis il ne leur voyait plus jamais. Et des choses comme ça arrivaient. Et les bombardiers, les avions alliés bombardaient l'Allemagne. Et eux, ils étaient au cœur de l'Allemagne. Ils racontaient comment des fois, il y avait ces bombardiers qui lançaient leurs bombes sur le camp dans la région où ils étaient. Ils devaient sortir de leur petit baraquement où ils dormaient parce qu'ils étaient tellement peur de se prendre une bombe, ils couraient dans les champs, ils allaient se cacher dans les trous d'obus et les bombes pleuvaient à gauche, à droite. Et je me rappelle que je commençais en tant qu'enfant, en entendant tout ça, à me dire, mais comment survivre là au milieu? Je me rappelle d'avoir entendu mon grand-père nous raconter des histoires. Je me rappelle une fois, il nous disait, une fois, alors que les bombardiers alliés bombardaient la région, les bombes pleuvaient. Il dit, on est sorti dehors, puis on a vu qu'il y avait une ferme en dehors du camp, une ferme d'un fermier allemand qui était en train de brûler. Puis ils se sont dit, on va faire quelque chose. Il a pris deux, trois prisonniers avec lui. Ils ont creusé sous les barbelés du camp, au péril de leur vie. Ils sont sortis du camp, ils sont allés aider ce fermier allemand à éteindre le feu à coups de seau d'eau, à éteindre le feu de sa ferme. Et moi, j'étais là, et je me rappelle qu'un jour, je devais avoir à peu près 11 ans, j'étais autour de la table avec lui, il racontait encore tout ça et toutes ces horreurs, ces choses terribles qui arrivaient. Il y a une question qui a jailli de mon cœur. Je dis, Pépé, parce que je l'appelais Pépé, mais comment t'as fait, Pépé? Comment t'as fait pour tenir le coup? Comment t'as fait pour pas être plein d'amertume? Comment tu fais pour raconter ces choses-là? J'ai l'impression que t'as pas de colère, t'as pas d'amertume, tu racontes ça avec tellement de paix, c'est incroyable. Comment t'as fait? Et là, je vois une étincelle qui s'allume dans son œil, puis il me dit, attends mon petit. Puis il se lève, il part dans sa chambre, il revient avec un petit livre tout fripé, tout jauni à force d'avoir été ouvert, d'avoir été travaillé, etc. Et là, il l'ouvre devant moi, et puis il me lit le psaume 1. Puis là, je suis là devant lui, puis il me lit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Torah, les instructions de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, puis il a mis ça, puis il le dit avec du ton, puis avec tellement de joie dans sa voix, il me dit ça, je me rappellerai toujours. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il est là, il me raconte ça, c'est extraordinaire. Au milieu de toutes ces horreurs, il avait trouvé la source de son bonheur. C'était quelque chose qui se passait à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'était quelque chose qui se passait à l'intérieur de lui. Et alors qu'il était là et qu'il se nourrissait à cette source-là, il y a une paix qui venait sur lui et une capacité qui venait sur lui, des capacités de Dieu que tu ne peux pas avoir dans ces circonstances-là. Et alors qu'il lisait sa Bible le soir, lorsqu'il y avait le couvre-feu, que les soldats éteignaient la lumière, il avait caché sa petite Bible dans sa paillasse là où il dormait. Il sortait sa petite Bible, il allumait une chandelle, une petite bougie, il l'allumait comme ça, puis il s'entretenait des choses de Dieu, il se nourrissait à la source, il lisait la parole de Dieu. Et alors qu'il faisait ça, les autres prisonniers, évidemment, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de lire quoi? On peut voir, etc. Quand on laisse la source de Dieu nous remplir, elle déborde. Alors il était là au milieu de ce camp, au milieu encore de sa tempête, au milieu des horreurs qui sont là. Il s'est mis à leur parler de l'espoir. L'espoir qu'on trouve en Jésus-Christ. Il s'est mis à leur partager cette source et ça a commencé à rejaillir sur ces personnes qui étaient là, ces prisonniers qui étaient là. Et tout à coup, un se donne au Seigneur et un autre se donne au Seigneur. Et tout à coup, un groupe autour de lui commence à se former de gens qui se sont donnés au Seigneur, qui a commencé à grandir. Et chaque soir, ils allumaient leurs chandelles, ils lisaient la parole de Dieu, ils se nourrissaient à la source tous ensemble. Alléluia! Alléluia! Dieu est capable. Dieu est capable, Dieu est grand. Et alors que les trois années ont passé et qu'à la fin de ces trois années, les alliés, les Anglais du côté, les Américains du côté ouest et les Russes du côté est ont commencé à libérer les camps en Allemagne. Tout à coup, un jour, ils sont levés et puis ils ont vu les chars américains arriver pour libérer le camp. Elle m'a raconté comment à quel point il a vu les autres prisonniers qui, eux, ne s'étaient pas approchés de Dieu. Il a vu la haine, tellement pris par leur haine, puis leurs choses dans leur vie, qui étaient tellement remplies de colère. Ils ont commencé à chercher, la plupart des soldats avaient déjà fui allemand, mais ils ont commencé à chercher un garde. Ceux qui nous ont fait tellement de mal pendant toutes ces années, il faut qu'on en trouve un. Ils ont trouvé un garde et ils nous ont dit, on n'a rien pu faire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'il meure. Puis là, je me rappelle, j'étais autour de la table, j'avais 10 ou 11 ans, puis il me dit, regarde Mathieu, 3 années d'emprisonnement, j'ai jamais été prisonnier, j'ai toujours été libre. J'ai toujours été libre. Et eux, alors qu'ils étaient libres, ils étaient encore prisonniers de leur haine, puis de leur colère. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin, si tu t'abreuves à la source, Dieu fait une œuvre miraculeuse qu'on ne peut même pas soupçonner. Au milieu de ta situation, là où tu en es aujourd'hui, dans ta santé, à ton travail, dans ta famille, là où tu es aujourd'hui, peut-être tu te dis, comment je pourrais changer ma situation? Dieu le peut. Il est capable de te rafraîchir au milieu de ta situation. Il est capable de rafraîchir ta vie là où tu es. Il est capable de le faire. Mon grand-père est rentré. Il a marié ma grand-maman et je suis là devant vous aujourd'hui. Si tu choisis de mettre Dieu au centre de ta vie ce matin, de lui dire, je suis OK Seigneur, chaque recoin de ma vie soit le Seigneur. Même le petit recoin là qui était dans l'ombre, c'est de celui-là que je te parle ce matin. Ce petit recoin qui est dans l'ombre, soumets-le à Dieu ce matin. Soumets-le à Dieu ce matin. Donne-le lui. Demande à Dieu qu'il vienne couler. Là. Pas juste où tu lui permets de couler. Chaque recoin de ta vie. Chaque recoin de ta vie. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, peut-être qu'il y a des domaines de ta vie où tu te sens emprisonné. Emprisonné dans une relation de couple difficile. Peut-être emprisonné par ta situation avec tes enfants où tu te sens dépassé. Avec tes ados, comment je vais faire? Emprisonné par des mauvaises habitudes qui te collent à la peau. Peut-être emprisonné par ta situation financière. Si tu ressens ce matin une soif, un douloureux besoin ce matin, viens à lui. Viens à lui, il te dit viens à moi. Si tu comptes sur Jésus, que tu cherches à t'abreuver à lui ce matin, si tu choisis de le mettre au centre de chaque recoin de ta vie, il y a une eau vive que Dieu va se mettre à couler, à faire couler dans ta vie, qui guérit les blessures, alléluia, qui guérit les blessures, qui prend ce qui ne va pas et qui rejaillit autour de toi pour faire du bien à ceux qui sont autour de toi. Apocalypse 22, verset 17, dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement ce matin, alléluia. Alors que chacun incline la tête ce matin, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ce matin parmi nous qui désirent choisir tout à nouveau de s'abreuver à la source de vie, à la source qu'est Jésus, de choisir ce matin de vous abreuver de Jésus pour votre couple, pour vous, pour vous-même, pour vous abreuver de Jésus, savoir comment faire avec vos enfants? Vous abreuvez Jésus pour qu'il puisse couler et rejaillir autour de vous dans votre situation professionnelle. Peut-être ce matin de laisser Jésus couler sur votre blessure, sur ce qui vous fait tellement mal encore ce matin, une eau vive guérissante. Alléluia. C'est un choix de dire à Dieu ce matin, je veux que cette eau de ton esprit remplisse chaque recoin de ma vie. Je veux que cette eau de ton esprit rejoigne chaque recoin de ma vie ce matin, pour que mes comportements, mes décisions, mes pensées, mes paroles, mes attitudes soient des fleuves d'eau de la vie de Dieu. Je veux cela ce matin. Je vais te demander là où tu es maintenant, si c'est ton désir de vivre ça, de dire Seigneur, viens couler dans ma vie. Je vais te demander de te lever là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Moi, c'est ma prière. Je suis debout avec vous, Seigneur. Seigneur, chaque recoin de ma vie, viens couler. Je te soumets tel domaine, Seigneur. Tu vois, cette semaine, il y a eu tel défi, j'ai eu tel comportement, Seigneur. Je te le soumets, Seigneur. Viens couler, viens m'assainir, viens me guérir, viens me faire du bien. Tu vois ce qui fait mal depuis si longtemps encore. Ce qui fait mal depuis si longtemps encore dans ta vie. Soumets-le à Dieu et laisse le fleuve d'eau vive couler. Laisse sa guérison prendre place dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-le faire cette œuvre-là dans ta vie. Alors que nous chantons tous ensemble en terminant, mon âme a soif de toi.